Moi, je recherchais vraiment le dépassement et j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller. Donc, pour ça, j'ai dégagé du temps, c'est clair, j'avais mon boulot et le travail. Il y avait vraiment cette notion de savoir ce que je valais, en fait. Je voulais pousser aux extrêmes mon corps, mon mental pour apprendre des choses, pour vérifier des choses, pour tester des choses. À l'époque, j'étais pas du tout dans une orientation faire un métier, hein.
Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Mon invitée de la semaine, Amandine Ferrato, est vice-championne du monde de trail et championne du monde par équipe. Son expérience du haut niveau a été, comme son voyage de 11 mois autour du monde dont elle nous fait le récit, une expérience transformative dans sa vie. Mais tout n'est pas rose quand on se consacre à une activité avec une telle intensité. Il y a beaucoup d'aspects du sport à haut niveau qui font moins rêver que les médailles et dont je pense on parle trop peu. Amandine raconte comment elle a eu le sentiment de se perdre, de ne plus se reconnaître alors que paradoxalement, elle faisait partie des meilleures mondiales dans son sport. Quête de sens, croyances limitantes, conformité sociale, vous l'entendrez, on parle de beaucoup d'aspects différents qui font qu'on peut à un moment donné ne plus se sentir aligné avec ce qu'on fait. Mais Amandine a réussi à trouver son équilibre et aujourd'hui parfaitement épanouie, ce n'est donc pas un hasard si, fort de cette expérience, Amandine est devenue coach de trail et de vie. Un super échange sur la thématique du sens et de l'alignement. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, Amandine, bienvenue sur le podcast.
Salut Loïc, salut les frappés.
Ravi de te recevoir, vraiment super. Moi je suis très très content parce qu'il y a plein de sujets dont on va pouvoir parler. En plus tu connais le podcast, tu as des gens que tu as coachés qui ont déjà été invités, donc ça fait une super synergie. Je suis très très heureux qu'on puisse organiser tout ça. Merci de t'être libéré pour cet enregistrement. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence par une petite présentation. Alors je sais que c'est dur quand on est multicasquette comme toi, mais qui est Amandine?
Qui est Amandine? Alors, je sais pas, présentation version frappée.
Allez, frappée.
Allez, on rentre dans le vif du sujet direct. J'ai fait un tour du monde en last minute en 2012. Donc, je suis partie en mode backpackers. J'ai traversé 13 pays et en fait, surtout le côté un peu frappé, c'est que ça s'est décidé en fait sur une plage 4 mois avant de partir. Et donc, du coup, voilà, ça a été quand même assez intense. Et du coup, ça a demandé un certain détachement matériel, des démissions aussi. Je dis des démissions parce que je suis partie avec mon copain. En fait, on était sur une plage et lui m'a dit je pense que je vais démissionner de mon boulot, ça m'intéresse pas ce que je fais. Moi, je lui ai dit moi maintenant, démissionner, c'est bon, j'ai déjà pas mal baroudé avant. Je dis si je démissionne, moi, c'est pour faire un truc significatif, style un tour du monde. Donc ça, c'était un dimanche soir sur une plage dans le Var, et 4 mois après, on avait les fesses dans l'avion. Voilà. Décor du côté entre guillemets un peu frappé. Après, sinon, j'ai été vice-championne du monde de trail, championne du monde par équipe. J'ai eu 2 sélections en équipe de France, des bons résultats sur des courses du type Zegama, Sierzinal. Pax Peak, si vous voulez plus d'infos sur mes résultats sportifs, il y a Wikipédia. Et du coup, ça s'est fait de manière assez rapide, puisque finalement, en fait, je suis rentrée de mon tour du monde et j'avais besoin d'espace, de liberté, d'air, de me reconnecter à des choses nature, des choses un peu plus, entre guillemets, minimaliste, en tout cas à l'époque. Et du coup, bah voilà, j'ai pris mes baskets, je suis partie courir et j'étais repérée assez rapidement par des équipementiers. Donc voilà, j'ai découvert le trail et une autre façon de pratiquer après, en rentrant dans le milieu élite, qui a été un très bon apprentissage de vie, avec des trucs bien, des trucs moins bien, voilà. Et par rapport à ça, justement, j'ai couru le Golden Trail World Series et il me manquait une manche pour me qualifier pour la finale. Et là, pareil, en fait, donc je suis partie aux US. En 10 jours en fait, branle-bas de combat, j'ai eu une opportunité à saisir, enfin en tout cas que j'ai choisi de saisir pour aller aux US, et donc du coup ça s'est décidé 10 jours avant la course, et donc là bah, il a fallu être hyper réactif pour trouver où dormir, trouver les billets d'avion, partir, tout ça quoi. Donc du coup ça c'était assez assez sport avant même la course, et j'en garde une très très bonne expérience, un très bon souvenir. Et dans les, pour rester dans les, la présentation un peu plus frappée, bah, plus récemment, je me suis alignée sur Sierre-Zinal, une des 4 plus grosses courses mondiales. Trail, pareil, j'ai pris mon dossard, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir obtenir un dossard 10 jours avant. Et donc là, bon, j'ai fait un petit récit sur mon site qui explique comment je me suis débrouillée pour y arriver. Et du coup, ouais, c'était vraiment le last minute. Et c'est pas forcément le, enfin c'est quand même assez comment dire ambitieux ou c'est quand même très ambitieux de s'aligner sur Sierre-Zinal comme ça avec je dirais pas si peu d'entraînement parce qu'il y a quand même un passif, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment pas fait une prépa optimale et du coup c'est vraiment l'audace et la détermination qui m'ont permis d'ailleurs de faire un top, enfin 19e et deuxième française, donc sur un plateau international, c'était extraordinaire et génial quoi. Donc voilà un peu mes présentations. Je suis pas complètement frappée non plus, hein. J'ai aussi organisé à côté. De toute façon, il le faut puisque j'ai ma structure de coaching trail et vie. Et voilà, mais voilà, pour résumer, c'est saisir les opportunités, c'est être déterminé, avoir envie, et puis peut-être pas s'arrêter non plus à la routine qui est agréable, le confort, mais qui peut-être empêche de saisir encore une fois certaines opportunités. Donc voilà, c'est
excellent.
Avec comme base commune quand même le trail, le partage et le côté humain, ouais.
Yes.
Voilà, une présentation.
Excellent. Quelle présentation. Quelle présentation. Alors, tu disais ton activité aujourd'hui, coach trail et vie. C'est la première fois que j'entends ce terme. C'est-à-dire, coach trail et vie, c'est quoi ton approche exactement?
Mon approche, en fait, c'est que je pense que ce que tu vis en trail est étroitement lié à comment tu te comportes aussi dans ton quotidien. Et finalement, la vie de tous les jours est peut-être une répète en entraînement, ce que j'appelle invisible, de ce que tu peux faire justement dans ton trail, que ce soit un trail de 20 bornes, de 40 bornes ou un ultra. Voilà, y a le comportement que tu as dans ton trail est très en étroite corrélation, je pense, avec ce que tu vis au quotidien. Et donc, du coup, pourquoi du coaching trail et vie? Parce que, justement, on va aller plutôt sur des aspects gestion du stress, partie mentale. Quand j'entends partie mentale, c'est pas le côté psy, hein, c'est plutôt en fait optimiser ses compétences mentales, c'est aussi arrêter d'avoir un mental qui est actif, qui tourne en boucle du style je suis nul, j'y arriverai pas, être submergé par ses émotions aussi, être peut-être acculé aussi par le stress, que ce soit avant ou pendant la compétition, après normalement ça devrait aller. Mais voilà, en fait, bosser sur son mental, ça veut pas dire avoir une maladie mentale, mais par contre, c'est plutôt en fait se servir de ses expériences de vie pour pouvoir les juxtaposer et les mettre dans sa pratique du trail. Donc c'est pour ça que je parle de trail et vie, parce que les deux sont encore une fois étroitement liés. Et donc c'est ce que tu vas mettre en œuvre dans ton quotidien qui va te permettre aussi d'être mieux dans ton trail. Et je pense notamment aussi à équilibrer ces domaines de vie. Et peut-être aussi la partie, pour certains, recherche d'identité finalement. Parce que ouais. Au départ, on se met peut-être au trail parce que on a envie de se prouver quelque chose, on a envie de prouver quelque chose peut-être aussi. Enfin, chacun a ses motivations, ça c'est pareil, c'est aussi quelque chose qu'on va explorer parce que ça évite d'aller dans le côté qu'est-ce que je fous là dans les moments de moins bien. Et du coup, ouais, ce côté-là, ça permet ouais de de comprendre en fait pourquoi tu pratiques le trail, qu'est-ce que tu veux y trouver, et d'arrêter de s'identifier aussi à ses performances. Et donc ça évite aussi d'être justement, ça limite le stress, ça permet d'avoir un peu plus confiance. Et pour ça, on va identifier l'écosystème de la personne. J'entends par écosystème, mais voilà, quel est son environnement, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle bosse, comment elle bosse, enfin tout ce qui constitue sa vie de base, sa vie personnelle et professionnelle. Et de là, en fait, on va y intégrer la partie trail et notamment tout ce qui est organisation pour limiter la fatigue nerveuse. Cette fatigue nerveuse, on a tendance à l'oublier. On a tendance un peu à être en mode machine, quoi. À 8h je fais ça, à 9h je fais ça, à 10h je fais ça. Alors j'espère que tout le monde n'est pas comme ça, hein. En tout cas moi je ne le suis pas, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui sont un peu en mode pilotage automatique, et tant que ça tourne ça va, mais la difficulté c'est que le jour où ça s'enraye un peu, ça devient compliqué, quoi. Donc l'idée c'est de se reconnecter aussi à ses aspirations profondes, pour vivre une vie un peu plus alignée, et aussi comprendre pourquoi tu choisis de l'ultra et ou pas du vin, ou plutôt qu'un vin borne, qu'est-ce que tu vas rechercher. L'idée c'est de tirer bénéfice en fait de son entraînement physique, en ayant une meilleure connaissance de soi, en ayant plus confiance en soi, et justement pour l'implémenter dans la course. Et on peut y ajouter aussi des parties stratégies de course, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais à quel moment, comment tu te comportes à quel moment, savoir identifier aussi les difficultés, les facilités du parcours, pour éviter de se prendre un coup de stress, notamment au départ, je sais pas, moi quand il y a, Gilbert qui va dire « Oh là là, au kilomètre 10, il y a une putain de côte, mais on va ramasser », soit si tu sais quelle est la côte et si tu as pu l'identifier par rapport à ce que tu as l'habitude de courir, peut-être que la côte n'est pas si dure que ça en fait. Et voilà, ça c'est une partie stratégie de course. T'as aussi tout ce qui est stratégie de ravitaillement en fait. Qu'est-ce que tu manges à quel moment, comment tu, beaucoup en fait ne mange pas assez ou ne s'hydrate pas assez, et donc du coup ça crée des baisses d'énergie, et donc du coup qui dit baisse d'énergie dit baisse de morale, baisse de mental, donc sans parler
d'aller, c'est le cercle vicieux après.
Ouais, voilà, c'est le cercle vicieux. Sans parler de gagner la course, il y a certains paramètres en fait qui sont souvent occultés et qui empêchent de pleinement s'exprimer. Donc du coup voilà, sur le côté trail et vie, voilà, c'est tout ça. C'est aussi se donner le droit de se reposer. Ça c'est quelque chose qui est difficile pour nombreux trailers, j'ai remarqué. Et donc ça accentue le côté lassitude, interrogation, perte de motivation, absence de sens et tout ça, quoi. Voilà, donc c'est atypique. D'ailleurs, j'ai une spécialité qui est plus orientée sur les profils justement au potentiel. Donc c'est des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui recherchent du sens, qui ont du mal à trouver leur place. Donc du coup on revient sur cette notion d'identité, de peur de décevoir, de pas être aimé, de peut-être s'identifier à ses performances. Mais finalement en fait les ennuis commencent quand tu fais des résultats, et pas forcément des résultats de haut niveau, parce que tu fais un 10 km, allez, on va dire un 10 km sur route, pour rester sur, c'est pas du trail, mais ça permet de bien expliciter, je pense. Voilà, si tu fais, 39 minutes à ton 10 km, tu sors, tu vois le voisin, il dit, alors, c'est bien passé le 10 km? Ouais, j'ai mis 39 minutes, c'était cool, je fais telle place, machin, parce que souvent, malheureusement, on s'oriente sur des places et des chronos, donc ça, c'est hyper anxiogène aussi. Et si tu refais un 10 km 2 mois après, que le voisin, tu lui dis que t'as mis 43 minutes, punaise, c'est presque la honte, quoi. Donc il y a ce côté, voilà, les ennuis commencent quand tu commences à faire des résultats et pas forcément des résultats de haut niveau, parce que du coup, tu vas te mettre une certaine pression et tu vas avoir un peu plus peur du regard ou du jugement du tien déjà et celui que les autres pourraient éventuellement te transmettre. Bien souvent, c'est faux, mais voilà, il y a cette peur de décevoir, cette peur de ne pas être aimé, cette peur du « quand dira-t-on ?». Et donc, l'idée, c'est de plutôt aller pleinement pratiquer son activité trail, qui normalement est une activité, en tout cas pour la grande majorité, loisir, et que ça reste justement en fait un loisir en fait, dans lequel on s'épanouit. En fait.
Ce qui est, je pense, en tout cas ma conviction, le plus important, prendre du plaisir. Je pense que tout commence de là. D'ailleurs, comment est-ce que ça a commencé pour toi, le trail? Qu'est-ce que tu y as trouvé qui fait que, déjà, tu as accroché, que tu as poussé la discipline, la pratique jusque au plus haut niveau, équipe de France, et que tu en fais aujourd'hui en partie ton activité?
Alors moi, le plus haut niveau, tu vois, Loïc, c'est pas forcément l'équipe de France. c'est plutôt en fait le Golden Trail World Series. Bien sûr que voilà, équipe de France, ça parle beaucoup. Il y a une notion un petit peu aussi de, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas de prestige, de pouvoir porter le maillot. Je sais que la première fois que j'ai eu ma brassière avec marqué France, j'étais investie de super pouvoirs. Et d'ailleurs, voilà, première année, première sélection en 2017, et puis bingo, direct vice-champion du monde. Et pourquoi? Parce que justement, j'étais transportée par ces notions d'émotion, de partage, d'humain, d'équipe, de courir pour sa patrie, de dépassement. Et pour revenir à ta question initiale, qu'est-ce qui m'a activée dans le trail? Comme je disais dans ma présentation, si on peut laisser une présentation, en rentrant de tour du monde, voilà, j'ai vécu pendant 11 mois à me poser la question, déjà à pied, avec ma maison sur le dos finalement, dans mon sac, en faisant du stop. Du coup, j'étais à des basiques, où est-ce que je vais, comment je fais pour manger, où est-ce qu'on dort, des questions qu'aujourd'hui, en fait, quand on est dans la société actuelle, on ne se passe pas forcément, parce que c'est entre guillemets normal. Et du coup, quand je suis rentrée, moi, j'étais étouffée par cette société de surconsommation. D'ailleurs, je suis j'essaie d'être assez minimaliste. Je pense que je suis. Je rigole parce que voilà, j'ai 5 shorts et j'ai 10 t-shirts pour le trail. J'ai 2 paires de baskets. Voilà. Donc j'ai une démarche assez je pars pour le principe que plus tu t'encombres en fait de matériel, t'es pas forcément plus heureux, même si il y a entre guillemets un minimum à avoir, ne serait-ce que pour s'intégrer, hein. Et sur l'aspect quand je suis rentrée de tour du monde, en fait j'étais étouffée par cette surconsommation. J'avais pas de mutuelle, on me disait oh mon Dieu, t'as pas de mutuelle. J'ai pas de mutuelle, la mutuelle, tout ce qui est couverture sociale, c'est vrai qu'on est très bien aidé en France. Maintenant, c'est pas non plus indispensable, même si ça peut paraître surprenant de ce que je dis là. Et donc, comme j'ai vécu pendant 11 mois comme les locaux des 13 pays traversés, au final, tu reviens à des valeurs essentielles j'étais étouffée, donc j'avais besoin d'air, j'avais besoin de quelque chose de simple, j'avais besoin de pouvoir d'être libre aussi. Et donc, il y avait une colline à côté de la coloc, parce que quand je suis rentrée de tour du monde, bien évidemment, ça a été un peu folklore hein, aussi, parce que je suis arrivée sur le quai de la gare et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que je pouvais pas compter sur ma famille pour m'accueillir. Et du coup, je suis allée squatter entre guillemets et après être en coloc chez des potes. Et y avait une colline en fait à côté et du coup, c'était facile. Je mettais des baskets, j'ai pris des baskets premier prix hein, évidemment. Et du coup, je suis allée courir dans la colline et c'est là que ça a commencé à prendre. Et puis après, je me suis dit il y a des petits trails, je vais aller voir. Et puis je fais les trails, mais j'étais quand je revois les photos, j'étais ridicule quoi. Mais bon, j'en avais pas conscience à l'époque. Et donc du coup il y a des marques qui m'ont repéré. Donc j'ai découvert ce milieu du trail et pour moi ça a été au début un peu une famille en fait. Donc, à un moment donné aussi, je m'y suis un petit peu perdue d'ailleurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la partie trail et vie dans mes coachings, pour justement bien se reconnecter à ses aspirations profondes, à ses valeurs, à ses envies, et non pas non plus chercher à faire plaisir à, parce qu'après, du coup, tu fais des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, et parfois tu sautes. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé en 2018.
Après, alors attends, pas trop de teasing, on va y arriver. Mais ok, en tout cas, donc si je comprends bien, le trail initialement, ça a été un peu, enfin plutôt un exutoire, c'est-à-dire que t'avais ce besoin de faire sortir la pression, en tout cas de revenir à quelque chose d'un peu plus simple, d'essentiel, et tu l'as trouvé dans le trail. C'est ce qui fait que t'as accroché aussi par la suite, ou t'as trouvé autre chose après là, finalement ce qui faisait brûler la flamme, ça a évolué une fois que t'as été repéré par exemple.
Alors au début, c'était vraiment ça, voilà, ce que tu viens de décrire, et aussi très important pour moi, la liberté. La liberté de pouvoir aller, venir, de découvrir aussi des espaces. Il y avait un côté aussi sport santé, on va dire, parce que quand je suis revenue, j'avais quand même 10 kilos de moins, donc je faisais 38 kilos. Donc c'était très péquilou. Donc il fallait remuscler tout ça, hein. Enfin tout ça, il fallait remuscler le corps. Et après, oui, quand j'ai intégré des marques, enfin des teams, quand j'ai collaboré avec des sponsors, il y a eu une notion plutôt de famille. Et c'est là que j'ai découvert aussi qu'il y avait plein de trails, que je pouvais aller à plein d'autres endroits, que c'était pour moi en fait l'ouverture vers un espace de jeu qui était encore plus grand. Et donc ça correspondait à ce besoin de liberté dans le sens nature, espace, évasion. Et après, petit à petit, par contre, il est vrai que je me suis retrouvée un petit peu dépassée par tout ce qui était demandé en plus de courir, quoi. Et puis forcément, faire attention à ce que tu dis. Voilà, il y avait une certaine pression que à ce moment-là, j'ai pas su bien gérer. Et c'est ça aussi que je partage aussi dans les coachings, notamment avec les élites. C'est apprendre à mieux communiquer et à gérer le stress aussi qui peut être lié à cette partie, justement un petit peu pression du résultat et pression de bien faire par rapport à ce qui peut être demandé, parce que tu as des calendriers de compétition, tu as des primes sur résultat. Donc ça peut des fois se être un frein dans le sens où ça égare de son projet de base. Et donc, du coup, parfois, on perd la notion de sens et justement de plaisir. Donc, s'il n'y a pas de plaisir, à mon avis, ça devient compliqué. Et derrière, ça, c'est les résultats qui en pâtissent. Ou alors, si ce n'est pas les résultats, à un moment donné, le corps, il se met aussi en grève. et du coup, ça va être une blessure, ça va être des choses de ce type-là. Et la blessure, à ce moment-là, est considérée comme une sanction. Or, la blessure, ça peut être une très bonne opportunité, justement, pour remettre en question certaines choses et justement prendre le temps de bien construire son projet et d'orienter sa direction. Je ne dis pas d'aller vers ses objectifs parce que c'est vraiment une direction, finalement. Et ce qu'il y a de bien, à mon sens, c'est de laisser les choses se faire au fur et à mesure pour justement garder cette fraîcheur. Et quand tu es sponsorisé, c'est vrai que tu as un calendrier et tout est timé. Et donc, du coup, voilà, c'est sympa aussi, hein, mais c'est une autre façon de pratiquer.
Ouais.
C'est vraiment une autre façon de pratiquer.
Alors, avant qu'on continue sur le sujet du trail, je suis quand même curieux de ce tour du monde. Tu dirais, est-ce qu'il y a une anecdote ou une expérience que tu as vécue dans l'un de ces 13 pays traversés qui illustre un peu, tu vois, ce que t'évoquais, peut-être cette prise de conscience de j'ai envie de revenir à quelque chose de plus simple dans ma vie, d'avoir une approche peut-être un peu plus minimaliste, entre guillemets. Ça a été une sorte de déclic ou finalement c'est la somme cumulée de ces 11 mois de voyage?
Du coup, par rapport à ça, déjà les anecdotes, oui, j'en ai plein. Une qui me marque le plus, c'est que du coup, on faisait du stop en Amérique centrale, chose qui n'est pas du tout recommandée. Et en fait, on adorait. Par contre, à un moment, en fait, on faisait du stop et c'était où? C'était au Honduras. Et en fait, on était sur une route déserte, on marchait, ça faisait des heures qu'on marchait avec notre sac à dos. Et il y avait quoi, trois bagnoles qui passaient. Et à un moment donné, il y a une voiture qui s'arrête. Et donc, du coup, je vois mon copain qui court vers la voiture. Moi, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas couru. Et là, je vois en fait trois personnes qui sortent de la voiture avec des mitraillettes en fait. Et là, je me dis punaise, et je voyais Mathieu qui courait vers la voiture. Et là, je me dis bon bah là, c'est fini quoi. Et en fait, finalement, on a été escortés à la frontière parce que c'était ils allaient en fait, c'était des militaires qui allaient protéger un convoi qui allait à la frontière. Quoi. Donc on est passé de on va se faire dégommer quoi et torture, enfin voilà, tu t'imagines un peu tout à mais ça dure des fractions de seconde hein, en fait on est escorté quoi. Donc c'était assez épique. Notre anecdote aussi, c'est toujours en stop. En fait, on avait décidé d'aller ça c'était au Guatemala. On avait décidé d'aller à un point B. Et finalement, en fait, il y a un couple qui nous prend en stop et eux, ils allaient au point C. Et donc, du coup, finalement, on a changé complètement de destination et on s'est retrouvés, en fait, à être accueillis par ces personnes qui avaient beaucoup moins que nous, qui avaient un restaurant. Du coup, ils étaient à leur restaurant et nous, en fait, on était chez eux. Ils nous ont laissés chez eux. Ils ne connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Ils nous ont laissé leur maison, on a mangé avec eux, du coup on a essayé de leur faire un repas français avec les ingrédients de là-bas. Hein. Mais ça, c'était des moments de vie et de partage qui te remettent bien les idées en place sur les valeurs humaines et sur l'importance en fait de l'instant présent aussi. Donc ça, c'est deux anecdotes qui m'ont bien marqué. Après, je pourrais t'en raconter des tonnes hein, parce que. On a quand même baroudé pendant 11 mois et 13 pays, c'est quand même pas rien.
C'était quoi du coup les 13 pays ?
Alors on a fait toute l'Amérique centrale, après on est allé, je te fais une version courte, donc toute l'Amérique centrale, après on est allé à San Francisco, de là après on est allé... que je me rappelle bien, on est allé en Thaïlande. La Thaïlande, c'était notre camp de base. C'est facile là-bas, tout est facile. Donc, c'était un peu notre plaque tournante pour, entre guillemets, un petit peu récupérer. On a fait, alors c'est pas dans l'ordre, hein, mais on a fait l'Australie, l'Inde, l'Indonésie. Qu'est-ce que j'oublie ? L'Indonésie... c'était en 2012 du coup peut-être j'oublie des pays mais en gros enfin l'Amérique centrale le San Francisco et après plutôt l'Asie du Sud-Est et l'Australie quoi. Donc okay. C'était complètement différent par exemple en Australie on a fait beaucoup de couchsurfing du coup parce que c'était bien plus cher et par rapport à l'Amérique centrale. Après nous on a adoré l'Amérique centrale justement pour le côté humain. Vraiment c'était vraiment ouais, c'était vraiment très riche. Moi, je suis très sensible, je suis très dans l'émotionnel et style quand on est parti des deux jours chez le couple qui détenait le restaurant, quand on est parti à pied, en fait, moi j'avais des larmes aux yeux, quoi. C'était fort, hein. Après chacun le vit à sa façon évidemment, mais c'est moi surtout le tour du monde, ce qui me reste c'est vraiment le côté partage humain et rencontre et puis le monde c'est énorme en fait dans le sens quand t'es chez toi là en France c'est dans ton petit microcosme et t'as peut-être pas notion de ce qui peut se passer ailleurs réellement même s'il y a les médias. Donc ça remet bien les idées en place c'est une expérience de vie comme le haut niveau qui que j'ai vécu à 200% et qui du coup c'est une tranche de vie qu'on peut pas t'enlever en fait quoi qu'il se passe ça reste quoi même si ça n'a pas été médiatisé comme ça peut l'être aujourd'hui sur des choses beaucoup plus courante, mais ça permet aussi de garder toute la fraîcheur et l'authenticité en fait du trip.
Ouais. Tu me fais penser à une anecdote. Alors, je te la fais très court parce que c'est ton épisode, pas le mien, mais un petit partage pour faire écho, tu vois, à ce que tu disais.
Ouais.
Moi, j'avais passé 6 mois en Amérique du Sud, ouais. Pérou, Bolivie, Colombie, et on avait fait un trek dans la Cordillère Blanche au Pérou. Et une anecdote, mais qui m'avait vraiment, tu vois, pour faire écho à ce que tu disais sur le voyage qui ouvre un peu les yeux, qui te remet les pieds sur terre. On était dans un minuscule hameau en montagne, dans un, alors, entre guillemets, restaurant, c'est-à-dire un local avec une alcôve qui servait de four et 3 tables et 2 chaises.
Oui, et, je vois bien,
voilà. Et donc, au Pérou, ils mangent beaucoup de poulet. Et donc, on avait pris un poulet. Et il y a une vieille dame qui rentre... vraiment habits traditionnels, les habits du coin, tu vois, donc un peu l'image typique qu'on peut voir sur les cartes postales du Pérou, mmh. Le petit chapeau, etc., et qui arrive à notre table et qui nous demande et qui demande en espagnol, et je comprends qu'elle me demande les os de notre poulet parce qu'on est fini de manger. C'est ce que je comprends, tu vois, et je me dis mais j'ai pas compris, tu vois, je comprends pas ce qu'elle me demande. Je viens de moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle me demande les os du poulet, mais c'est pas ça, donc je comprends pas, tu vois. Donc il y a une espèce de dialogue de sourds où elle me redemande les os du poulet et moi je me dis mais non, je comprends pas ce qu'elle me dit, tu vois. Donc je fais rien, du coup je lui donne pas les os du poulet, et elle finit par aller voir le proprio du resto, et là vraiment, tu vois, les larmes aux yeux, en lui disant que elle comprend pas pourquoi on lui donne pas les os du poulet. Mmh. Et là, il lui donne des restes qu'il avait, etc. Et elle part en mangeant. Tout de suite, elle s'est mise à manger, tu vois. Et là, en fait, j'ai percuté. Je me suis dit, mais j'avais bien compris. En fait, elle est dans le besoin et elle a même pas de quoi manger. Et donc, elle voulait vraiment les os de notre poulet pour prendre les 3 grammes de viande qu'il y avait à prendre, tu vois. Mmh. Et là, ça a été un espèce de mélange de honte, de prise de conscience, de dire attends, mais c'est hallucinant, là j'ai quelqu'un en face de moi qui n'a pas de quoi se nourrir et qui en est réduit au point de finir les plats dans le restaurant du hameau, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment 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 marqué. Et ouais, quand je pense voyage, tu vois, que j'entends des gens qui racontent des anecdotes comme toi, c'est pas pour rien, je pense, tu vois, le truc de les voyages forment la jeunesse, enfin moi j'en suis vraiment convaincu parce que j'étais assez jeune. Et ça m'a mis une espèce de claque dans la tête, mais monstrueuse, qui m'est restée depuis. Donc voilà, petite anecdote.
Ouais, ça t'a marqué, ouais.
D'Amérique du Sud. Ouais, ouais, clairement, ouais.
Mais donc, oui, nous, par rapport à ça, tu vois, c'est vrai que... donc là, on a des poules, mais tu vois, on se dit des fois, les poules, nous, elles n'ont pas de chance, parce que même quand le pain il est dur, on le fait griller, quoi. C'est pas qu'on peut pas s'acheter une baguette de pain, mais par contre, on a la notion, en fait, on a de la chance de pouvoir manger à notre faim, et donc l'idée, c'est de pas gaspiller, sans rentrer dans des extrêmes évidemment, hein, mais du coup oui, quand t'as vécu ça, tu t'as un autre regard, en fait, t'as vraiment, ouais, un autre regard. Et c'est vrai que moi, quand j'ai perdu 10 kilos, c'est parce que justement je mangeais comme les locaux, donc c'est pareil, c'est très comment dire, t'as pas la sauce au beurre de cacahuète, quoi. Ouais. Enfin si, en Thaïlande. Enfin, en tout cas, quand tu fais comme les locaux. Maintenant, voilà, tu peux très bien faire un tour du monde aussi, ou voyager de manière beaucoup plus confortable.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais il me semble que tu retires pas les mêmes bénéfices.
Oui, c'est comme tout, je pense, comme dans la pratique sportive, finalement, tu as la pratique que tu décides d'avoir. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Sur le voyage, je pense, c'est pareil.
Mais tu vois, là, quand tu parles de la pratique que tu décides d'avoir, justement, dans la pratique sportive, au début, tu commences comme ça. Mais après, souvent, tu as tendance à... Enfin, si tu fais pas attention, tu as tendance justement à faire des choses pour être pour appartenir à une communauté aussi. Et pour et du coup, si toi tu arrives que tu n'as pas la dernière paire de pompes machin, tu passes un certain message, quoi. Comme moi là, ouais. Tu vois, je suis pas sponsorisée, je fais quand même des très bons résultats. On peut s'imaginer, entre guillemets, je sais pas quoi d'ailleurs. Mais en réalité, c'est juste que ça ne s'est pas présenté en opportunité. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a je pense que, voilà, et après, il y a un côté appartenance à une communauté qui donne de l'identité aussi. Et l'idée, c'est pas de se perdre dans tout ça, de mon point de vue.
Bah écoute, ça fait une super transition. J'ai le sentiment, quand j'ai écouté ta présentation, et là depuis, ça fait 2-3 fois que tu glisses des petites anecdotes, j'ai l'impression que ton passage par le... Enfin, ton passage. Ta pratique au plus haut niveau en trail, il y a des choses intéressantes à raconter là-dessus. Donc, comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Comment est-ce que tu synthétiserais déjà, peut-être pour commencer par ça? Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi, cette pratique à haut niveau? Tu évoquais un peu les sponsors, etc. Mais en quoi est-ce que ça a chamboulé, si c'est le cas, ta vie?
Déjà, la partie sponsor ça m'a, et le milieu élite m'a montré... voilà, c'est comme quand tu dis je cours, je fais la course à pied. Il y a ceux qui font de la route, il y a ceux qui font de la piste, il y a ceux qui font du trail. Ben là, en fait, c'est je fais du trail, mais il y a le trailer... les courses que tu peux faire, tu peux en faire 3-4 par week-end, côté un peu plus loisir, c'est pas péjoratif, hein. Et il y a le monde du trail élite où là tu rentres dans une autre dimension. Moi, clairement, j'ai découvert un autre monde avec un côté très dans la consommation aussi, mine de rien, parce que voilà, tu dois porter certaines baskets à certaines périodes, tu dois faire la promo de vêtements ou sorties d'articles à telle période. Donc ça, c'est un côté un petit peu marketing que je comprends, hein, mais qui du coup, moi, j'étais pas très à l'aise avec ça. Je suis peut-être un peu trop authentique. Et du coup, ouais, j'ai découvert un autre milieu. Après, il y a un peu moins d'entraide et de solidarité, contrairement en fait à ce qu'on veut bien laisser passer comme valeur dans les différents communiqués. Maintenant, il y en a un petit peu, hein, mais c'est pas, on a les crocs, quoi. Hein, ouais. il faut y aller, quoi. Faut faire sa place, quoi. Donc c'est une autre façon de pratiquer. Après, c'était génial parce que le haut niveau, moi, je suis en recherche de, même aujourd'hui, hein, je suis très consciente que j'ai pas l'énergie, le temps disponible pour retourner dans le haut niveau par rapport à mon entreprise, et mes coachés sont prioritaires. D'ailleurs, en début d'année, j'ai été contactée par le sélectionneur de l'équipe de France pour recourir les championnats de France dans le but de réintégrer l'équipe de France. Et là, pareil, en une semaine, je suis passée par toutes les couleurs, quoi. J'étais au taquet, je voulais y retourner. C'était génial. J'étais comme un gosse, quoi. J'étais hyper excitée. Puis ça, c'était le lundi, puis le mardi aussi, puis le mercredi aussi. Puis le mercredi, je commençais à me dire, ouais, mais attends, Amande, t'as 42 ans. Les petites jeunettes, là, elles ont 10-15 ans de moins que toi. Comment tu vas faire pour récupérer? Puis surtout, tu as une boîte à faire tourner, tu travailles 50-60 heures par semaine, donc du coup, comment tu vas réaliser ça? Et puis donc, finalement, je fais la version courte, mais j'ai fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour finalement dire, non, j'irai pas. Et ce qui m'a pas empêché de gagner le Cross du Mont Blanc cette année, et comme j'ai dit tout à l'heure, de faire des beaux résultats devant les minettes, les petites jeunes françaises, comme je dis. L'idée, c'est d'être un petit peu réaliste, et justement, tout à l'heure, je parlais à un moment donné d'équilibre de vie, c'est ça aussi. Et du coup, je m'égare, je me rappelle plus la question que tu m'as posée.
L'impact, c'était l'impact de ton entrée dans le haut niveau, du coup. Ce que tu avais trouvé, en quoi est-ce que ça avait changé ta vie, tes habitudes, tes routines, et peut-être d'ailleurs, en quoi est-ce que ça avait changé ce que tu, finalement, cette espèce d'énergie que tu trouvais dans ta pratique du trail jusqu'à ce moment-là.
Moi, je recherchais vraiment le dépassement, et j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller. Donc pour ça, j'ai dégagé du temps, c'est clair, j'avais mon boulot et le trail. Okay. Et j'avais mon copain aussi, mais malheureusement à cette époque-là, du coup, il était un peu moins intégré. Et d'ailleurs, merci à lui d'être toujours présent dans tous mes challenges. Mais il y avait vraiment cette notion de savoir ce que je veux aller, en fait. Je voulais pousser aux extrêmes mon corps, mon mental pour apprendre des choses, pour vérifier des choses, pour tester des choses. À l'époque, j'étais pas du tout dans une orientation d'en faire un métier, hein. Mais voilà, je me suis entourée du coup de micronutritionnistes, de préparateurs mentaux, d'un entraîneur physique, et du coup, ouais, ça m'a complètement changé mon mode de vie, ouais. Ma façon de faire, ma façon d'être, ma façon de faire les courses aussi, les courses, je parle pas de trail, mais les courses alimentaires. La façon de m'alimenter, et c'est des choses qui m'ont servi aussi pour un certain équilibre, ne serait-ce que dans la vie perso, puisque j'avais tendance un peu à sauter les repas, l'entraînement était plus important que manger, quoi. Sauf que si tu ne manges pas comme il faut, à un moment donné, ton corps, il ne peut plus, quoi. Hein. Donc il y a ce côté aussi, je ne savais pas très bien équilibrer, je pense, j'étais toujours pressée, en fait. J'avais entre guillemets un problème avec le temps, donc du coup à un moment donné il a fallu se poser un petit peu pour rééquilibrer tout ça, et c'est des erreurs que font beaucoup, hein, mais bien souvent en fait on s'en aperçoit pas forcément parce qu'on est en mode pilotage automatique avec l'envie, le désir d'atteindre les objectifs fixés, et donc on a un petit peu ces objectifs dans le viseur, quoi, hein, on est focus dessus et on se rend peut-être pas forcément compte des erreurs qu'on fait. Et 2017, ça a été vraiment... je sais que quand j'ai été vice-championne du monde, il y a certaines mauvaises langues qui ont dit « Ah, c'est de la chance ». Non, pour moi, c'était pas de la chance. C'était la conséquence ou la révélation au grand jour, en fait, de 3 années d'entraînement que j'appelle donc invisible, parce que je partage dans mes coachings, qui ont permis d'aboutir à ces résultats-là. Et d'ailleurs, la même année, j'avais fait... 3h09 à Cierzinal, donc ça parle un peu déjà. Et j'avais enchaîné avec l'OCC, où j'avais fini troisième derrière Emil Forsberg et Ellie Gordon, avec un beau spectacle. Donc c'était, qu'on dise une fois un coup de chance, non. c'était pas un coup de chance.
Ça, je trouve ça fou. Je conçois pas les gens qui peuvent te sortir des trucs comme ça, coup de chance.
Ça c'est pareil. Tu vois, c'est pareil, ça, tu vois, quand t'es dans le haut niveau, au début, ça te pique un peu. Puis en fait, moi maintenant, je suis complètement détachée de ça. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans mes coachings, de savoir se détacher du regard des autres, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais. Tu vas plaire à certains, pas à d'autres, et j'ai tendance à dire plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, donc voilà, quoi. Ça fait partie du jeu.
Complètement. Non, c'est sûr que, évidemment, que je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à s'en détacher, mais la démarche, tu vois, je vais pas donner plus de temps que ça dans l'épisode à ces gens-là, mais la démarche de dire c'est de la chance, machin, ou tu vas te critiquer la performance.
C'est de la jalousie, en fait, et ou peut-être de suscites quand tu t'exposes comme ça, de toute façon tu suscites autant d'admiration que de jalousie, hein. C'est pareil, tu vois, quand j'ai eu mon titre de vice-championne du monde, moi j'étais pas du tout préparée à tout ça, donc c'est ce que j'enseigne aussi, ce que je partage dans les coachings auprès des jeunes élites, c'est que pour pas se perdre, encore une fois, moi je me rappelle, en fait, je suis passée de l'effervescence équipe de France, équipe partage, t'as rien à faire entre guillemets que à t'entraîner et à profiter, et puis quand t'arrives chez toi, que t'as ta médaille et tout ça, là tu reçois des, tu passes de l'anonymat, en fait, à la révélation, entre guillemets, et du coup tu es assailli de coups de fil, de médias, du coup tu n'as même pas le temps, entre guillemets, de savourer ta performance, que t'es, qu'il faut déjà tout médiatiser, du coup quand tu n'es pas préparé, c'est violent, hein. Et puis tu n'as pas trop le temps de récupérer non plus, même quand tu franchis la ligne d'arrivée, je me rappelle, en fait, j'ai profité quasiment de rien, parce que direct tu vas au contrôle antidopage. Donc c'était très bien, mais du coup il y a aussi cet envers du décor qui est un peu moins sympathique. À un moment donné, justement, tu vois, en 2017, je me rappelle, j'avais dit à mon entraîneur, je vais lever le pied parce qu'en fait là, je sais plus qui je suis, en fait. Je sais plus qui je suis. C'était vraiment ça m'a déboussolé, et puis après je me suis aperçue que je courais plus trop pour moi, mais plutôt pour faire plaisir à, et pour appartenir à un certain milieu et du coup, ouais, c'est ça m'a semblé pas être des bonnes raisons en fait.
C'est fascinant ce que tu expliques, enfin ce partage sur cette partie de ton parcours, parce qu'on pourrait se dire, tu vois, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu aussi avec des médaillés olympiques. On pourrait se dire, bah, tu vois, oh, incroyable, la révélation, 3 ans d'efforts qui sont récompensés par une super performance. On va parler un tout petit peu de Cyrzynal, mais qui est une course quand même franchement légendaire dans le milieu du trail. Et finalement, bah, ça débouche sur quoi ? Sur un questionnement et peut-être un réalignement de ta pratique. Et dans pas mal de sports, moi, ce que j'avais entendu, c'était ça, c'était la médaille olympique arrive. Alors souvent, c'est médaille d'or, tu vois. Donc voilà, bah, le rêve ultime dans beaucoup de disciplines pour beaucoup de sportifs et sportives. Et derrière, bah, c'est en fait la phase, un peu la douche froide, parce que bah, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel sens tu donnes une fois que tu as décroché l'or olympique ? Bah, tu fais quoi ? T'es qui ? Et j'avais entendu des histoires même de champions olympiques qui n'étaient pas forcément dans des disciplines très médiatisées, donc qui n'étaient pas nécessairement hyper connus, qui mentionnaient même plus le fait qu'ils soient sportifs ou sportifs de niveau et champions olympiques. Parce que, en fait, ça prenait trop de place. Pour les gens, c'était plus, tu vois, Gilbert, c'était le champion olympique je sais pas, tel sport en 2020, tu vois. Donc, super intéressant ce que tu partages.
Ouais, tu perds ton identité même, en fait. C'est comme si, une fois que tu n'avais plus le costume, entre guillemets, bah, tu n'étais plus rien, quoi. Et tu vois, par rapport à ça, pour une anecdote plus récente, moi, je suis très contente pour Jim qui a gagné l'UTMB. Et je me suis posé la question, justement, c'est génial, ça fait des années qu'il court après ce titre. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, en fait, je me suis posé comme question. Ouais. En plus, bon, Jim, j'étais chez Oka International, donc je l'ai côtoyé. Mais du coup, voilà, je me suis posé la question. Voilà, et après, qu'est-ce qu'il y a ? C'est d'ailleurs que pour ça aussi que tu as des personnes, en fait, elles sont toujours deuxième ou troisième. Mais elles n'arrivent jamais à la première place. Mais c'est pas une...
Tu penses que c'est inconsciemment qu'elles se limitent ?
Je suis persuadée que oui, il y a des croyances limitantes qui font que tu te sabotes de manière inconsciente, hein, bien souvent, hein, heureusement. Mais ouais, c'est ces croyances limitantes qui font que bah, du coup, tu ne vas pas au bout de ton projet. Parce que finalement, une fois que tu as atteint l'objectif, bah, qu'est-ce que tu fais après derrière ? Il faut pouvoir se réinventer, se renouveler. C'est pas évident, hein. C'est challengeant aussi. Donc du coup, ouais, c'est interpellant.
Ouais. Mais ça fait du bien, tu vois, d'entendre. Enfin, je trouve que c'est génial d'avoir un témoignage comme le tien, parce que ça vient un peu quand tu connais pas l'univers du haut niveau ou c'est pas forcément quelque chose sur lequel les gens sont très ouverts. Tu vois, de la même manière que les problèmes de nutrition dans le haut niveau, bah, j'ai eu plusieurs invités qui en parlaient, et à chaque fois c'était un peu la révélation, quoi. Les gens se disaient, ah bon, mais ça existe vraiment dans le haut niveau, donc je trouve ça vraiment génial.
Mais même là, quand je parle d'entraînement invisible, bah, c'est vrai qu'en fait je vois chez les jeunes élites, hein, après c'est mignon, hein, mais du coup, et puis moi ça fait un peu, la sagesse ou l'expérience qui parle, mais je vois toutes les erreurs et en même temps, bah, ça fait partie de l'apprentissage en fait. Hein, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que bah, voilà, t'appuies sur play, ça démarre et puis c'est bon, quoi. Ben non, ouais. Il y a tout un tas de choses derrière. D'équilibre à trouver, et qui dit équilibre dit aussi, ben, ça évolue en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce qui se passe dans ta vie perso, dans ta vie pro. Donc ouais, tout ça, c'est un peu des sujets aussi qu'on a tendance, entre guillemets, un peu à mettre sous le tapis, parce que ben, tant que ça marche, ben, pourquoi aller se titiller ? Moi, je suis plutôt dans une démarche inverse qui est d'aller catalyser. D'être dans la prévention plutôt que d'être dans le rattrapage. Souvent, les gens, quand ils me contactent, ils sont déjà, entre guillemets, un peu désemparés, quoi. Et l'idée, c'est de ne pas intervenir en mode pompier, mais plutôt de catalyser les choses, de ne pas attendre que ça aille mal pour tirer la sonnette d'alarme, en fait.
Ouais. Vaste sujet.
Vaste, ouais. Vaste sujet, ouais.
Ouais, ouais, carrément. Sierre Vinal, alors, j'ai pas la distance en tête précise, mais c'est une trentaine de kilomètres, c'est ça ?
31 km, 2200 de dénivelé.
Ok, ouais, donc ça pique bien. Donc c'est un peu le nom de la course, en fait, c'est un peu comme la Saint-Élion. C'est Sierre, c'est la ville de départ, Zinal, la ville d'arrivée. Tout est en Suisse, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et qu'est-ce qui fait, de manière très synthétique pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est une des courses mythiques dans l'univers du trail ?
Bah en fait, y a vraiment tout le gratin. Et puis en plus, t'as le gratin aussi. Enfin, t'as tous des coureurs de très bons de niveau international. Et y a aussi ces supports de trois autres circuits, gros circuits mondiaux. Je ne les ai plus en tête. En plus du Golden Trail World Series. Et surtout, c'est une course où la particularité, c'est que tu pars direct en côte. Et après, il faut tout le temps en relancer. Et c'est des pierriers suisses, entre guillemets, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a des pierres, mais tout est propre, donc il faut tout le temps relancer, tout le temps courir vite, et la particularité aussi, c'est qu'à Zinal, tu vas chercher une place et un chrono. La course, elle est la même depuis 1974, donc du coup, voilà, quand t'inscris ton nom dans les tablettes, il y est, quoi. C'est vraiment, j'irais, en fait, c'est un peu du trail sur piste, quoi. Là, tu peux pas mentir, quoi. C'est vraiment, c'est hyper exigeant. Et puis, t'as pas forcément de période où tu peux un petit peu récupérer, entre guillemets. Sur les trails, selon les profils, t'as des sections où tu peux un peu récupérer. Je parle en cardio, t'alimenter, tout ça. Non, là, il faut tout le temps être au taquet, en fait. Et quand tu arrives à Ponchette, c'est le tiers de la course, bah du coup tu sais à peu près, enfin si tu sais combien de temps tu vas mettre. Et donc là, il faut faire gaffe à pas se laisser embarquer dans le truc. Ah, punaise, je suis en retard, je suis en avance. Je voulais faire tel chrono l'an dernier, j'ai fait ça, machin. Donc ouais, faut faire gaffe à pas rentrer dans ces phénomènes de stress liés justement au chrono et à la place. Donc ouais, Zinal, Zinal, ouais, c'est deux courses. Mais pour moi, tu vois, ma course, par contre, une course que je referai jamais, justement. Pourtant, j'ai vécu un truc extraordinaire et c'est vraiment ma course de cœur, c'est Zegama. Zegama, c'était le Graal, quoi. J'ai fait troisième. J'ai souffert pendant cette course, mais à la fois, j'étais dans un état de flow où j'étais vraiment dans la maîtrise, justement. C'est pareil, ce que je partage dans mes coachings. Comment faire pour être dans la maîtrise c'était extraordinaire. Et par contre, tu vois, je referai jamais Zegama parce que je veux garder ce souvenir intact. Quand j'ai fait les championnats du monde, pardon, avec l'équipe de France, du coup, la première année, c'était génial, c'était extraordinaire. La deuxième année, ça m'a un peu gâché le plaisir. J'étais un peu
plus frustrée
de certaines choses et tout ça. Et donc là, du coup, tu vois, Zegama, c'est un peu mon bijou que je laisse dans mon coffret, quoi.
Ouais.
Que je vois briller. Ouais.
Ne pas relire Harry Potter quand tu l'as lu une fois, c'est jamais le même plaisir. C'est un peu l'approche, mais ok, je vois. Zegama, c'est... du coup, je suis sur la page, c'est au Pays Basque, c'est ça ?
Ouais, Pays Basque espagnol.
Espagnol,
ouais.
Ok.
Et c'est okay. Une des manches du Golden Trail World Series aussi, ouais.
Ouais. Alors, attends, parce que ça fait... Juste pour être sûr sur ce point, le Golden Trail Series... ça fait plusieurs fois que tu en parles. Est-ce que tu pourrais, de manière synthétique, c'est quoi ? C'est une sorte de... C'est un peu à la manière Ironman dans le triathlon, c'est un label qui fait office un peu de championnat du monde du trail, c'est ça ?
Alors, je ne sais pas si on pourrait le comparer au label Ironman, mais le Golden Trail World Series, donc le GTWS, c'est un circuit mondial trail où tu as, je ne sais plus, il faudra vérifier, tu as 6 épreuves. Après ça change chaque année, mais du coup moi quand je l'ai fait, il y avait Zegama, il y avait les Dolomites, il y avait le marathon du Mont Blanc, il y avait Pikes Peak aux US, dans le Colorado, il y avait une manche en Irlande, et après la finale on est allé au Népal. Donc en fait tu fais un certain nombre de courses, et du coup tes résultats sur ces courses là te permet d'accéder à la finale, où du coup tu pars pendant une semaine avec tous les meilleurs mondiaux. Et donc du coup l'idée, c'est d'être dans le partage et tout ça. Et au départ, c'est un circuit qui a été monté par Greg Volley. Et du coup, l'idée, c'était de médiatiser le trail avec ses avantages et ses inconvénients, hein, toujours pareil. Et du coup, ouais, pour moi, en tout cas selon moi, le GTWS, c'est vraiment le circuit mondial et ça a beaucoup plus de valeur qu'un championnat du monde. Championnat du monde, D'accord. Quand tu vas en championnat du monde, il faut que tu sois sélectionné en équipe nationale. Donc, ça veut dire que déjà, il y a une personne qui sélectionne, suivant certains critères, hein, que je maîtrise pas, pour intégrer, pour pouvoir courir. Là, par contre, quand tu y vas sur GTWS, t'es dans un... c'est la performance brute, entre guillemets. Donc, voilà, pareil. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai pas de sponsor. Du coup, voilà, je m'aligne sur certaines courses, mais si t'as pas de sponsor, c'est quand même compliqué de faire ce type de circuit. Enfin, ça demande des moyens financiers et des moyens en termes de temps aussi, parce que ça veut dire déplacement, ça veut dire aussi disponibilité temporelle, quoi.
Ouais.
Donc voilà, c'est un autre monde, quoi. Et en même temps, tu vois, ça peut faire rêver, mais en même temps aussi, à ce côté, faut toujours être présent, t'es toujours par mon zévo, tu vois pas forcément tes gosses. D'ailleurs, de toute façon, c'est principalement des gens qui sont sans enfants hein, qui font ça. Mais du coup, il y a un côté qui fait rêver quand tu regardes. Mais peut-être qu'on ne se pose pas la question non plus de l'investissement que ça demande aussi, pas que physique, aussi nerveux.
Ouais, la partie immergée de l'iceberg. Exactement, du haut niveau. Complètement d'accord avec toi.
Après, le haut niveau, c'est chouette. Hein,
c'est sûr.
Hein. Moi, c'est transcendant, quoi. Enfin, c'est... C'est comme mon tour du monde, en fait. Ça fait partie, c'est quelque chose que j'ai vécu des choses extraordinaires, des émotions ultra intenses, des moments de partage, de folie, d'excitation, intensité, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est magique. C'est magique. Mais par contre, moi, je suis peut-être trop terre à terre, je sais pas. C'est quelque chose, il me semble, qui reste. Possible sur une courte durée, ne serait-ce qu'en termes de préserver ton organisme, ton corps, ta tête et tout ça, quoi.
Ouais. Oui, c'est sûr. Bah, en fait, je pense que de manière générale, effectivement, l'expérience, pour avoir fait une courte période à haut niveau aussi, ça forge, tu vois, c'est extrêmement riche et enrichissant. Mais ça vient avec son lot. Je pense que voilà, il faut être prêt à accepter ce avec quoi ça vient. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses fabuleuses, mais c'est comme tout dans la vie. Il y a des aspects qu'on n'imagine peut-être pas, qui sont qui viennent avec et qui sont peut-être moins agréables. Tu vois. Moi, j'ai les deux ménisques fissurés depuis que j'ai 12 ans avec le judo. Donc voilà, ça, tu vois, on n'y pense pas trop. On se dit, waouh, c'est fabuleux, faire du sport quand t'es jeune. En fait. Voilà, faire du sport quand t'es jeune jusqu'à une certaine intensité, mais après, faut quand même être conscient que quand t'as un corps qui se forme, selon l'intensité de ta pratique et selon ta pratique, ça peut laisser des traces à vie, quoi. Donc, voilà. Et ça, généralement, on en parle un peu moins.
C'est les zones d'ombre, c'est ce qu'on met sous le tapis, que je disais tout à l'heure, qu'on veut pas trop, aller voir, parce que bon, pour l'instant, ça marche comme ça, donc on se pose la question après. Sauf que bien souvent,
mais j'ai une question pour toi là-dessus. Pardon, je te coupe, mais j'ai une question pour toi là-dessus parce que je me la suis posée il n'y a pas très longtemps. Je me disais, mais en fait, prenons ton cas, tu vas me dire comment t'aurais géré ça, toi. Si on t'avait dit avant que tu arrives à haut niveau, si on t'avait dit de manière très rationnelle, ok, tu vas pouvoir aller à haut niveau, ça va être absolument fabuleux, voilà tout ce que tu vas pouvoir vivre, mais voilà l'impact que ça va avoir, voilà les comportements que tu vas rencontrer, voilà tu vois, l'agenda beaucoup plus strict que tu vas devoir suivre. Est-ce que tu es quand même prête à y aller ou pas?
Bien sûr.
Tu serais allée quand même, c'est vrai?
Okay. Parce que j'ai cette recherche de... J'ai ça dans les tripes, en fait, hein, le côté dépassement. Puis moi, j'ai une histoire de vie... à 12 ans, j'ai appris à me débrouiller. Donc finalement, ma vie est une forme de résilience. Après, chacun a ses combats. Hein, mais du coup, bien sûr que j'y serais allée parce que ça c'est... C'est malgré tout que c'est que du sport, en fait. C'est la principale des choses secondaires. C'est un peu fou ce que je dis là, mais du coup, bien sûr que je signe. Par contre, tu vois, le fait qu'on me dise, il va se passer ça, ça, ça et ça, je pense que ça m'aurait coupé l'envie. Parce que ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas savoir. C'est ça qui est excitant. Tu vois, les personnes qui me contactent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'elles sont en stress ou elles n'ont pas confiance en elles sur dans leur trail. Donc, bien souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lié aussi à des attitudes dans la vie. Donc, c'est pour ça que c'est trail et vie, parce que les deux sont liés, encore une fois. Mais l'idée, en fait, c'est de remplacer le stress par du jeu et du plaisir. Et pour qu'il y ait du jeu et du plaisir, il me semble qu'il faut avoir aussi un peu d'incertitude. Parce que si tu sais déjà ce qui va se passer, c'est pas excitant. Donc l'idée, c'est... tu vois, moi, le matin des championnats du monde, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Et je me suis dit, attends, Amande, remplace la peur de mal faire par l'envie de bien faire, en fait. Et sois excitée à l'idée de bien faire. Et à partant de ce principe-là, en fait, je me suis amusée tout du long. Bon, après, j'ai été en croix parce que j'avais pas prévu de me battre. En fait, j'ai fait vice-championne du monde parce qu'il y a 3 secondes d'écart avec la première qui est une Française aussi et qui est tous les espoirs, en fait, étaient sur elle. Et donc, moi, en fait, j'ai pas osé la passer parce que je me suis dit, si je la passe, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me rejeter, je ferai plus partie de l'équipe, j'aurai plus de deuxième famille. Tu vois, il s'est joué tout ça dans 15 bornes, quoi. Ça, j'en ai pas trop parlé non plus. J'en ai même, j'en ai très très peu parlé. Mes coachés sont au courant de cet épisode-là parce que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, il faut être prêt aussi à gagner. Il faut être prêt à prendre la première place. Et là, tu vois, si j'avais pas tergiversé pendant ces 15-20 bornes, moi, en fait, si tu veux, j'étais derrière et l'idée, c'était de protéger Adeline, quoi. Et à partir du moment où j'ai évincé toutes les autres nationalités, je me suis retrouvée dans ces basques et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, j'avais pas prévu, tu vois. Et donc, du coup, j'avais peur, d'être rejetée, j'avais peur du candidaton au sein de l'équipe de France. Parce que, à l'époque, c'était Philippe Propage, c'était l'entraîneur d'Adeline, la médecin, la kiné, c'était une copine à Adeline. Enfin, il y avait une structure staff qui était assez proche, qui était très proche d'elle, et donc du coup moi j'avais peur de décevoir. Donc du coup j'ai pris un drapeau et j'ai fait les 3 secondes, ce qui empêche que je suis très, j'ai agi avec le cœur à ce moment-là, et j'ai aucun regret, c'est comme ça. Mais tu vois, ça c'est pareil, il faut être prête.
Ça, cette réflexion là, ce que tu viens d'évoquer, t'étais au clair là-dessus dans la course. Où tu t'en es rendu compte après que c'était ce sentiment, cette peur de décevoir qui t'avait
Pendant la course, j'étais tiraillée entre l'envie d'y aller et j'avais la capacité, mais j'avais tellement peur d'être rejetée ou de décevoir. C'était pas, de ce que j'avais vécu. Alors c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais de ce que j'avais vécu moi dans les stages équipe de France et tout ça. Et en plus, je partageais ma chambre avec Adeline. Enfin, on était cul et chemise. Mais j'étais tiraillée, vraiment tiraillée. Et j'étais incapable de prendre une décision. J'avais tellement peur d'être rejeté, Et tu vois, ça revient à la notion, justement, d'identité, savoir pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour faire plaisir à toutes ces... Et ça, c'est valable. Là, je parle de c'était en haut niveau, mais finalement, à une échelle moindre, c'est souvent ce qui se passe aussi chez des trailers moins dans le haut niveau, quoi. Donc, et c'est ça qui fait que des fois on stagne, qu'on se lasse, qu'on perd la motive, et tout ça, quoi. Des pensées négatives, et tout ça, quand tu te balades dedans alors que t'es en train de courir, c'est pas le moment, quoi.
Ouais, non, clairement. Mais en termes d'accompagnement, alors c'est vraiment passionnant ce sujet, mais malheureusement on arrive déjà au bout. Mais si tu devais synthétiser la manière, tu vois, pour justement les gens qui te contactent, qui te disent que ils aimeraient bien passer un cap, performer au niveau où ils voudraient, ou en tout cas au maximum de leur potentiel, mais qui sentent qu'il y a des choses qui bloquent, comment est-ce que tu les accompagnes dans les grandes lignes? Est-ce qu'il y a des étapes par lesquelles tu passes systématiquement, notamment cette notion de trouver son sens? Où tu fais ça 100% à la carte selon chacun?
Alors en fait, c'est plutôt 100% à la carte et c'est vraiment du coaching premium, du coaching personnalisé. Donc chaque accompagnement est différent et vraiment sur mesure. Et ça demande justement beaucoup de travail pour moi en amont et en interséance pour justement activer les, en tout cas faire prendre conscience à la personne des leviers qu'elle pourrait activer. Et du coup, en fait, moi, si tu veux, j'amène un autre espace de conscience et ça permet en fait de sortir de certains conditionnements, encore une fois, de ce mode pilotage automatique en fait. Et suivant les individus, bah, du coup, il y aura une partie plus préparation, genre, entre guillemets, technique. Comment tu t'organises avant la course, comment tu fais pour activer tes trois piliers, le plan de course, qu'est-ce que tu dois faire à quel moment, le plan de ravitaillement, comment tu t'alimentes. Il y a aussi l'après-course. Souvent, on oublie ça. Et l'après-course, en fait, ça va permettre de conditionner la suite de ta saison. Donc il y a des choses aussi à faire après la course, ça c'est la partie plus technique, puis pour d'autres ça sera une partie plus mentale, donc tout ce qui est discours interne négatif, tout ce qui est comparaison, tout ce qui est énergie, émotion, côté imposteur aussi, comment prendre sa place justement, hein, le besoin de reconnaissance, et puis pour d'autres ça sera plus sur la partie stress et peur, donc les croyances limitantes, la peur de rater. Quelque chose qu'on parle pas souvent aussi, c'est la peur de réussir. Celui-là, on l'oublie souvent. Ouais. Le lâcher prise, la perfection. Voilà, c'est du coup, c'est les motivations profondes, la recherche de sens. C'est très varié en fait. Et du coup, ouais, je m'adapte vraiment à la personne en fait.
Excellent. Et s'il y a des gens qui veulent creuser le sujet avec toi, potentiellement se faire accompagner, le mieux pour te contacter, c'est quoi?
Bah, le mieux pour me contacter, c'est d'aller sur mon site internet, c'est côte-à-côte-coaching.com. Côte à côte, on est côte à côte, ou alors d'une côte à une autre. À toi de mettre le dénif que tu veux, le pourcentage de pente. mais moi, je serai en haut de la côte pour stimuler, pour accompagner, pour motiver, pour permettre à la personne de se révéler pleinement. C'est vraiment, en fait, tout est possible. Voilà, bien souvent c'est nos freins et nos croyances limitantes qui nous bloquent, et en amenant justement en faisant un petit peu d'introspection et en amenant un autre regard sur la situation, bah, ça permet de d'ouvrir des portes et à la personne de trouver ses propres clés. Donc, et puis sinon, bah, je suis sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram notamment, avec Kiffe ton Atypie, ça c'est la partie plus pour les HP, et sinon Amandine Ferrato, coach trail et vie, sur la partie plutôt trail, mais encore une fois les deux sont souvent liés.
Yes, génial. Bah écoute, je mettrai de toute façon les liens en description de l'épisode. Un immense merci Amandine, c'était passionnant d'échanger avec toi sur ta pratique du trail et ta vision, j'allais dire du trail presque, de la vie en général, comment ce gros voyage à influencer tout ça et ce que tu fais aujourd'hui, c'était vraiment génial, j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup.
Merci à toi
avec très grand plaisir. Est-ce qu'il y a peut-être un message en guise de conclusion que tu voudrais faire passer?
Profiter de la vie,
c'est beau.
Mettez-y ce que vous voulez, mais ouais, de remplacer le stress par de la vie et du jeu.
Yes. Très beau message. Bah écoute, un grand merci encore une fois Amandine, et excellente journée à toi.
Merci et à bientôt.
Merci d'avoir écouté cette conversation avec Amandine jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous aura intéressé. S'il y en a qui se sont inscrits à la prochaine édition de la Sierzinale, faites-moi signe. Cet épisode, comme tous les autres, vous est proposé gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner de la visibilité à ces invités exceptionnels en laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Si vous voulez m'envoyer un feedback ou une suggestion d'invité, vous pouvez le faire via le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau frappé qui a traversé les Alpes en parapente de la Slovénie jusqu'à Nice.